16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures d'une balade rieuse à travers les siècles à la rencontre de 3 personnages fascinants qui, malgré tout leur talent, n'arrivent jamais cependant à éclipser le génie de mon co-animateur. Bonjour Stéphane Bern.
Oui, alors bonjour Mathieu, là vous y allez un peu fort quand même.
Bonjour
à tous.
Un peu trop.
Non, je vous connais. Ça commence par une flatterie. Et après, vous me plantez un couteau dans le dos pour le quiz.
Effectivement, je ne peux pas garantir que ça n'arrivera pas, Stéphane.
Et voilà, donc moi, ça me fait de la peine, voyez-vous. Surtout, là, vous pouvez pas me comparer aux 3 personnages, les rois de l'impro dont on va parler dans cette émission.
Vous êtes doué, vous, en impro, si je vous enlève vos fiches, là, pour toute l'émission.
Écoutez, je pense que ça sera convenable.
Je pense que vous êtes bon en impro.
Ça ne sera pas exceptionnel non plus, voyez-vous.
Alors, nos personnages, eux, étaient exceptionnels.
Oui, 3 champions de l'improvisation. Et dans des genres très différents, vous allez voir. Je vous parlerai de Beethoven, dont on célèbre aujourd'hui même les 250 ans de sa naissance. Beethoven, un génie, oui, mais un génie de l'improvisation aussi, et ça, on le sait moins. Lui aussi a improvisé, ce qui deviendra l'un des discours fondateurs de l'Amérique, Martin Luther King, en français Martin Luther King, et son célèbre I Have a Dream, qui n'était pas écrit et qui veut dire « J'ai un rêve ».
C'est vrai.
C'est l'anglais,
oui. Oui, c'est beau. C'est l'anglais.
Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un improvisateur de génie plus proche de nous.
Oui, Stéphane, l'autre jour, quand je suis arrivé en retard pour l'enregistrement et que je vous ai expliqué que c'était parce que j'avais un goûter au Ritz avec Kate Middleton, dont je suis en fait secrètement l'amant et qu'on a dû faire un détour pour éviter les paparazzi qui nous traquaient, je le sens bien, vous ne m'avez pas cru.
Non.
Lui, vous l'auriez cru. Il s'est fait connaître grâce à son personnage de Serge le Mytho. Je vous raconte l'histoire, la vraie, enfin, à 99% de Jonathan Cohen.
Avec nous également.
Alors, visiblement, vous aimez bien Jonathan Cohen. On n'arrive pas trop à savoir pour quelle raison.
Je suis content.
Oui, vous êtes content.
Avec nous également, comme chaque après-midi, ils nous gratifient de leur lumière. Ce sont nos merveilleux chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour
Clémentine.
Sur l'improvisation, eh bien, je songeais au fait que, évidemment, c'est un art très difficile, mais songez à quel point il doit être difficile d'improviser quoi que ce soit quand on est bègue. Alors, je me suis interrogée sur le bégaiement. Les grands bègues, on les connaît, hein, les Louis le, à commencer par Louis le Bègue, naturellement, mais aussi Louis XIII, Louis Jouvet, Churchill, et le fameux roi d'Angleterre qui a donné lieu à ce film, le discours d'un roi.
Mais François Bayrou.
Le bègue le plus glorieux de l'histoire, qui est celui qu'on cite forcément quand on parle d'un bègue, parce qu'il s'entraînait à parler avec des cailloux dans la bouche. Hein, c'est Démosthène. Je remonte très loin. Moi, je fais
très, 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 très morts.
Oui. Mais voilà, Démosthène, on dit toujours, on sait ça. Il s'entraînait avec des cailloux dans la bouche. Moi, j'ai voulu en savoir plus sur Démosthène.
Il ne faut pas les avaler.
Également, aujourd'hui, David Castello-Lopez. Aujourd'hui, David, vous nous parlez d'un objet sans qui Stéphane Bern ne serait rien.
Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire.
Dites-le quand même, voir comment il réagit.
Est-ce que c'est un micro?
Le prompteur, Stéphane.
Le prompteur.
Vous travaillez au prompteur en télé?
Pas toujours. Les grandes émissions de promo où par exemple faut souvenir,
du nom des artistes et tout ça.
Non, les artistes, ils se produiront à la grande scène musicale, tel jour, tel machin. Là,
le recours au prompteur.
En tout cas, c'est l'anti-improvisation.
D'où le contre-pied. On sent que vous êtes fier de vous aujourd'hui, David, sur votre chouette.
Et puis, alors, je ne vois pas le lien entre l'impro, parce que on n'improvise pas une crème anglaise, Olivier Pouls.
Autant on peut improviser en cuisine sur plein de recettes salées, sur la pâtisserie, c'est beaucoup plus compliqué d'improviser. Et n'improvisez pas une crème anglaise, parce qu'elle sera ratée. Alors je vais vous dire comment il faut bien la réussir. Et puis surtout, est-elle réellement anglaise d'ailleurs?
Ah bon?
Shocking. Ah tiens, shocking.
Et non, elle est chinoise. Enfin, vers 5h-10, nous départagerons Clémentine et Stéphane. Non pas comme lors de la soirée du CE avec le jeu de la banane accrochée entre les jambes qu'on doit faire entrer dans le verre, mais via notre quiz, Born to be Alive, le seul quiz de l'audiovisuel où les candidats se permettent de remettre en cause la légitimité des questions.
Oui.
Mais d'abord, place à notre premier récit du jour. Vous saviez que Beethoven était un grand compositeur, mais saviez-vous qu'il était aussi un génie de l'improvisation?
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Un génie, lui, l'était assurément, Mathieu. L'un des plus grands compositeurs de tous les temps, le grand Ludwig van Beethoven, né à Bonn, en Allemagne, selon toute vraisemblance, le 15 ou bien le 16 décembre 1770. Il y a toujours un doute sur la journée. Si cette date n'est pas passée à la postérité, sa légende, elle, a traversé les siècles. Il y a des choses que tout le monde sait sur Beethoven. Qu'il est un génie absolu de la musique classique, d'abord. Qu'il était sourd, évidemment, ça ne s'oublie pas pour un compositeur. Mais aussi qu'il était colérique et sujet à un tempérament pour le moins explosif. Un portrait qui lui colle à la peau, mais que l'on sait pour le moins réducteur. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement ? La complexité du personnage n'a d'égal que celle de ses compositions instrumentales savantes, la 9e et 5e symphonie en tête, toutes deux considérées comme des chefs-d'œuvre absolus. Il y a des choses en revanche que peu de gens connaissent sur Beethoven, que c'est un adepte des idées de la Révolution par exemple, que c'est un grand romantique aussi, et bien sûr, ce qui va nous occuper aujourd'hui, qu'il est un roi incontesté de l'improvisation. Il a à Vienne la réputation de meilleur improvisateur de son époque. Mais hier encore se murmure-t-il que Mozart en son temps. L'un de ses élèves, le compositeur d'origine tchèque, Karl Czerny, disait de lui que son improvisation était à ce point brillante et étonnante qu'il arrivait fréquemment que parmi ses auditeurs, les yeux se mouillent de larmes et que certains éclatent même en sanglots. Czerny rapporte qu'indépendamment de la beauté et de l'originalité de ses idées et de la manière ingénieuse dont il les rendait, ce qui émouvait le public, c'était qu'il y avait dans son expression quelque chose de merveilleux. Pour vous le prouver, je vous propose d'écouter un morceau considéré comme la retranscription d'une improvisation qu'il fit à Vienne lors d'un grand concert donné au théâtre An der Wien le 22 décembre 1808. Il s'agit là d'une version interprétée par le pianiste Rudolf Serkin.
On a du mal à croire qu'il s'agit d'une improvisation vu la complexité du morceau, Stéphane. Et d'ailleurs, comment se fait-il qu'on en ait une trace ? Il n'y avait pas d'enregistrement sonore à l'époque, si je ne m'abuse.
Nous n'avons évidemment pas d'enregistrement de Beethoven offrant au public viennois cette extraordinaire démonstration de ses talents en 1808. L'œuvre que nous venons d'entendre a été écrite l'année suivante, en 1809. Mais il s'agirait, selon les spécialistes, d'une composition écrite en souvenir de cette improvisation. Et d'ailleurs, le compositeur et pianiste Ignaz Moscheles, un contemporain et un grand admirateur de Beethoven, appuie cette thèse, puisqu'il disait ne pas pouvoir entendre ce morceau sans penser aux improvisations de Beethoven. Car ce n'est pas la seule et unique fois que Beethoven fait montre de ses talents en la matière, loin s'en faut. Les duels d'improvisation pianistique sont assez courants dans la haute société viennoise à la fin du XVIIIe siècle,
puis au XIXe. C'est comme les battles de rap, en fait, aujourd'hui.
Exactement, c'est tout à fait ça, Mathieu. Pour gagner leur vie, obtenir des commandes ou le soutien de riches mécènes, les compositeurs doivent impressionner les mélomanes, prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Et il existe une rude concurrence dans la capitale autrichienne à l'époque. Mozart lui-même n'échappe pas à cette tradition et lui aussi a un sacré talent en la matière. Son célèbre affrontement contre le compositeur Muzio Clementi, par exemple, à la cour de l'empereur Joseph II en 1782, est entré dans les annales. Pour Beethoven, ce duel mystique eut lieu 18 ans plus tard contre un autre pianiste virtuose, l'Allemand Daniel Steibelt. Il existe de nombreux témoignages des duels auxquels Beethoven participe au cours de sa vie. Mais celui-ci reste certainement le plus célèbre, un choc des titans si l'on peut dire, dont Beethoven sortit naturellement vainqueur. Et Steibelt, pardonnez-moi l'expression, la queue entre les jambes. Laissez-moi vous raconter des circonstances.
Piano à queue entre les jambes, oui, si je peux me permettre de surenchérir.
Vous avez raison, parce que c'était fait avec beaucoup d'à-propos, une très bonne improvisation, Mathieu. Laissez-moi vous raconter les circonstances quelque peu cocasses de cet épisode.
Ah oui.
Un soir que Steibelt jouait au piano, il avait eu l'outrecuidance de singer un morceau de Beethoven, ce comportement constituant pour l'époque une véritable provocation au duel musical, bien sûr. Beethoven n'aurait pas eu d'autre choix que de répliquer. On raconte que furieux, il retourna une partition de Steibelt, la lut à l'envers sur le pupitre, et avec une facilité déconcertante, joua avec le thème de son adversaire pour improviser un morceau qui suscita l'admiration de tous. Une humiliation pour Steibelt, qui quitta la pièce et ne revint même plus jamais à Vienne. C'est vous dire la déculottée. Un exploit d'autant plus extraordinaire que l'on sait qu'à l'époque, Beethoven souffre déjà de graves problèmes de surdité. Il eut très tôt dans sa vie à jongler avec de puissants acouphènes, dès l'âge de 26-27 ans. Des acouphènes qui se transforment en quelques années seulement en surdité partielle, puis finalement vers l'âge de 47 ans en surdité totale. Mais ce handicap ne l'empêche pas de continuer à exercer son métier. Bien au contraire, D'une faiblesse, il en fait une force. Il met en place des stratagèmes astucieux pour continuer à exercer son métier. Il a par exemple l'idée d'ôter les pieds de son piano, de le poser à même le sol et de ressentir ainsi les vibrations de la musique à travers le sol en s'asseyant par terre. En revanche, cette surdité a un autre effet pervers sur sa vie, quelque chose qui a à voir avec un autre aspect de sa personnalité.
Comme le mot pervers a été prononcé,
vous verrez, Mathieu.
Ça m'excite d'avance.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Les champions de l'improvisation, c'est le sujet d'Historiquement Vôtre aujourd'hui. Lui fut l'un des premiers à improviser, peut-être un des meilleurs aussi, Beethoven, dont vous nous parlez cet après-midi, Stéphane. Un Beethoven sourd, ça on le sait, ce qui ne l'a pas empêché de devenir un des plus grands compositeurs de tous les temps, mais une surdité qui a eu un autre impact sur sa vie, vous nous disiez.
Oui, Beethoven était sourd. Il était froid, distant, misanthrope même. Eh bien, l'un explique un peu l'autre, figurez-vous. Si Beethoven met bien des astuces en place pour continuer à pouvoir composer, malgré son handicap, il sait aussi en trouver pour éviter que cette affliction dont il souffre ne soit ébruitée, qu'elle nuise à sa réputation et donne du grain à moudre à la compétition. Écoutez donc ce passage d'une lettre en forme de testament qu'il adresse à ses frères en 1802, mais une lettre qu'il n'enverra jamais. « Ô homme qui me jugeait ou me déclarait haineux, revêche ou misanthrope, vous ne savez pas la cause secrète de ce qui vous paraît ainsi. Cette cause secrète, c'est évidemment sa surdité. Une surdité qui le fait paraître plus froid et distant qu'il ne l'est vraiment. »
Mais parce que les gens ne s'en rendent pas compte.
Non, évidemment, il cache cet handicap. Dans une lettre au docteur Franz Wegeler, écrite lorsqu'il avait 31 ans, il s'étonne même que personne ne soupçonne son affliction. « Du fait que j'ai toujours été enclin à la distraction, dit-il à son ami, ils attribuent ma dureté d'oreille à ce trait de caractère. » Peut-être même que cette dureté d'oreille pouvait expliquer un autre de ses traits de caractère, ses accès de colère. D'ailleurs, il le dit dans la lettre, « Parfois je n'entends pas une personne qui me parle doucement. À l'inverse, si quelqu'un crie, je ne le supporte pas. » Pourtant, sous ses airs revêches, Beethoven était un grand romantique. Combien de fois nous sommes tous exercés et voilà, j'ai dû renoncer au piano à cause de cette lettre à Élise. Cette bagatelle en la mineur, oui, c'est ainsi que l'on nomme une courte composition en musique classique. Rappelez-vous Mathieu, nous l'avons dit ici même dans Historiquement Vôtre, dans une question du quiz que j'avais remporté haut la main une fois encore.
Comme d'habitude.
Qu'elle n'a jamais été dédiée à une demoiselle du nom d'Élise. Il s'agit d'une erreur de déchiffrage. On sait aujourd'hui qu'elle fut dédiée à une certaine Thérèse Malfatti, une aristocrate qui rejeta sa demande en mariage. À moins que ce ne soit Thérèse de Brunswick, l'une de ses élèves. Voyez-vous, Mathieu, des amours déçus, Beethoven en a d'ailleurs eu plusieurs. Il faut dire que ses origines modestes ne l'ont pas aidé, ni d'ailleurs l'instabilité de son caractère dont nous parlions à l'instant, ou même son apparence. Car on le disait assez laid. Et affligé de petites véroles. Et puis, c'est un révolutionnaire qui fréquente les groupes clandestins jacobins, ce qui ne plaît pas forcément aux dames de la belle société des salons bourgeois qu'il fréquente en parallèle. Surtout qu'il n'hésite pas à revendiquer ses idéaux politiques à travers son apparence vestimentaire, pas de coiffe bourgeoise, ni de culotte ou de bas de soie. Quand il meurt à l'âge de 56 ans, Beethoven vient d'achever une 10e symphonie.
Hein ?
Impossible, me direz-vous, mais Beethoven n'en a écrit que 9.
Et oui.
Eh bien non. Oh. C'est simplement que cette ultime œuvre s'est perdue. Wie comme on dit en allemand, quel dommage. Et celle-là en tout cas, eh bien il ne l'avait pas improvisée, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du destin exceptionnel de Beethoven, nous sommes en ligne. Devinez avec qui, Stéphane. Quand on parle musique classique, il y a un personnage référent pour nous.
Ah la seule référence en musique classique en France, c'est Ève Ruggieri.
Il n'en existe point d'autre. Bonjour Ève Ruggieri.
Mais que de responsabilités sur mes frêles épaules.
Moi, je pense que la musique classique a été inventée uniquement pour que Ève Ruggieri soit invitée dans les émissions. Chère Ève Ruggieri, vous avez longtemps animé Musique au cœur. C'était ma Madeleine, moi, sur France 2. Vous avez publié il y a quelques années Beethoven et son temps, beaucoup plus récemment, un dictionnaire amoureux qui fait date, le dictionnaire amoureux de Mozart. Vous racontez d'ailleurs dans votre dictionnaire que le 10 avril 1787, Beethoven est reçu par Mozart à Vienne. C'est l'homme qu'il admire le plus au monde. C'est celui qu'on lui a présenté durant toute son enfance comme l'unique modèle. Est-ce que cette rencontre, Beethoven en rêvait depuis longtemps? Et comment elle s'est déroulée? Est-ce que ça s'est bien passé? En général, quand on voit son idole, on est souvent déçu. Oui.
Ben, ça s'est passé comme vous le dites, c'est-à-dire c'est un drame, parce que c'était quand même les deux génies de la musique du XVIIIe siècle. Et on imagine Beethoven, dont la famille n'a pas un sou, qui a réussi à partir grâce à un mécène pour Vienne. Il a quoi, 16 ans, 15, 16 ans. Donc il a dû, pendant le voyage qui était long en voiture attelée, il a dû imaginer tout ce que cette rencontre allait lui apporter. Il arrive, il entre chez Mozart, qui est entouré de quelques amis, qui est extrêmement fatigué, malade, qui en a certainement par-dessus la tête de ces soi-disant jeunes génies qu'on vient lui présenter, et qui va à peine l'écouter. Ah, Beethoven joue un morceau qu'il avait préparé, il s'aperçoit que Mozart l'a pas écouté. Donc il lui dit, et que Mozart est en train de lui dire merci beaucoup, il lui dit non, mais je veux vous rejouer quelque chose. Je veux vous jouer quelque chose qui est de moi, puisqu'on parle d'improvisation, il va improviser en y mettant toute son âme, tout son cœur, et ça marche pas. Donc il part dévasté, il s'arrête chez un facteur de piano dont la fille était charmante, pour se remonter un peu le moral. C'est un séducteur, hein, Beethoven. Et donc, c'est pendant ce voyage, deuxième catastrophe, qu'il apprend que sa mère est mourante.
Ah oui,
donc, il repart doublement dévasté, les cœurs lourds de chagrin, donc, quand
ça,
il arrive
ça, c'est pas très bien passé.
Sa mère est morte. Non, c'est un ratage complet.
Alors, Beethoven, roi de l'impro, Ève, ça paraît quand même incroyable. Improviser en musique classique, ça consiste en quoi? Parce qu'en jazz, on comprend, c'est l'essence du jazz, mais en musique classique, ça paraît être l'inverse.
Alors, c'est ce que d'ailleurs les jeunes musiciens ont beaucoup de mal à apprendre, parce qu'on nous apprend à lire la musique. Et autant les jazzmen peuvent s'échapper très librement de ces partitions, vous leur donnez un thème et ils improvisent, autant les musiciens classiques ont du mal. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais moi je me rappelle très bien que j'étais totalement incapable d'improviser sur un thème de Mozart. L'apprentissage de la lecture des partitions est un carcan dont on a du mal à s'échapper.
Mais pour improviser, Ève, il faut entendre ce qu'on improvise.
C'est ça qui est fou. Pour Beethoven, ça paraît doublement
fou. Pour Beethoven, c'est doublement fou. Il a raison, Mathieu, parce qu'il ne s'entendait pas.
Non, mais le fait de s'entendre par l'oreille n'a pas d'importance pour les musiciens. En fait, ça a de l'importance, par exemple, si on dirige un orchestre, c'est très compliqué. Mais on a la musique dans la tête. Donc, on entend la musique. On n'entend pas, si vous voulez, ce que disent les gens. Mais la musique, c'est en soi. Il n'a pas été sourd à ses débuts. Il a été sourd jusqu'à 20 ans. Il entendait la musique. Donc, il l'a en lui.
D'accord. Je raconte à Ève l'histoire de ces duels pianistiques du 19e siècle et même à la fin du 18e. C'était un exercice obligé, c'est-à-dire
Oui, parce que c'était spectaculaire. C'était un match, en fait. On prenait deux musiciens qui étaient très connus et on disait, ça faisait la une des affiches pour attirer du monde. Demain, tel musicien va affronter tel autre musicien. Et c'était assuré. Tout le monde a été plus ou moins soumis à cette exhibition. C'était certainement pas très agréable parce que le public n'y connaissait pas grand-chose. Mais ça se faisait couramment. C'était une manière d'attirer
le public. Oui.
Voilà, c'est ça. Mais je pense que pour les musiciens, ça doit être très humiliant.
Ève, on célèbre, vous savez, aujourd'hui les 250 ans de sa naissance. Au moment de sa mort, Beethoven est déjà une célébrité. Il le reste aujourd'hui. Comment on peut expliquer que dans l'histoire de la musique classique, il y a quand même eu pas mal de grands compositeurs? Pourquoi Beethoven reste comme ça en haut de l'affiche?
Parce que c'est magnifique. Parce que il suffit d'écouter ses symphonies.
Lesquelles? Alors, si pour quelqu'un qui nous écoute, rien. Qui n'y connaît rien, pardon. On commence par quelle symphonie? Moi, j'adore la 7, par exemple. Est-ce que par laquelle on commence?
La 7e est somptueuse parce que le second mouvement met les larmes aux yeux. Mais celle qui est la plus fréquemment donnée, c'est la 5e, avec les coups du destin. Hein. Voilà. Je crois qu'il y avait chez Beethoven d'abord l'homme. Dès qu'on connaît un peu son histoire, qu'on devrait enseigner vraiment dans les écoles, qui était quelqu'un qui avait très tôt à une époque, c'est un peu Mozart qui avait commencé dans sa démission, qui était quelqu'un qui ne voulait pas avoir de maître et qui traitait ses mécènes ce qu'il a dit au prince Lichnowsky, qui était l'un de ceux qui lui donnaient le plus d'argent. Et quand le prince l'obligeait à jouer pour des Français, des officiers français, contre lesquels Beethoven s'est dressé en déchirant sa partition lorsque Vienne a été envahie par les Français, il dit au prince, « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance, des princes après vous, il y en aura des milliers, il n'y a qu'un Beethoven et c'est moi. »
Ah,
il a valu de perdre immédiatement une grosse somme d'argent.
Oui, oui, oui.
C'est une manière de faire que je déconseille vivement à ceux qui cherchent un mécénat.
Un mécénat, oui.
Et il avait ça. En plus, c'était un homme qui était persuadé de son génie et qui, dans les derniers quatuors, qui sont des chefs-d'œuvre très en avance, qui annoncent presque Schoenberg, qui est un musicien contemporain difficile, lorsque l'un de ses musiciens va lui dire « c'est injouable, maître, c'est injouable, votre musique », Beethoven répond tranquillement « vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, c'est pour les temps à venir ». Donc c'est quelqu'un qui avait cette force,
oui,
et
fou.
Il est admirable en cela, et sa musique parle de ça. Et en même temps, il était capable de mouvements d'une tendresse, mais bouleversante.
Ah non, mais c'est magnifique, il faut y réécouter Beethoven, et puis on vous écouterait des heures, cher Ève. En tout cas, merci Ève Ruggieri d'avoir été avec nous. Pour tout savoir sur Beethoven, il faut relire votre livre Beethoven et son temps, aux éditions Mango, et je rappelle votre dictionnaire.
Oui, il vient de sortir en livre de poche.
Ah, formidable.
Idéal.
Le dictionnaire
idéal.
Amoureux de Mozart,
ah, bah, voilà,
plein de choses drôles.
Merci beaucoup Ève Ruggieri, un bonheur.
Merci à vous tous.
Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Elle parle beaucoup, vous le savez, mais aujourd'hui, Clémentine, vous nous parlez de ceux qui avaient justement du mal à s'exprimer.
Ben oui, oui, je vous parle de Démosthène. Comment expliquer que, malgré une grave déficience de l'élocution, il soit devenu non seulement l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité, mais le symbole de la démocratie athénienne. Ça n'était pas gagné pour ce jeune homme parce que c'est déjà un miracle qu'il ait survécu. Il naît en 384 avant Jésus-Christ, dans une famille riche et influente, mais il est malingre, il est fluet, et vous savez que dans la Grèce antique, un père de famille peut exposer son fils. C'est-à-dire, si l'enfant vous paraît un petit peu trop fragile, vous dites, ben celui-là, j'en veux pas. Ben oui,
non.
Vous pouvez refuser.
Et vous en faites quoi?
Vous le laissez mourir, vous l'abandonnez dans un panier, un nourrisson dès qu'il naît. À Sparte, ça se faisait, on balançait en plus les enfants du haut de du petit paillon, là, on les jette quasiment dans le vide. Enfin, lui, il aurait pu être exposé par son père. Ça n'est pas le cas, il survit, mais malgré tout, il est tellement fragile que sa mère n'ose même pas l'envoyer quand il est un petit garçon à la palestre pour faire les exercices de gymnastique comme font tous les autres garçons. Et puis, on n'éprouve même pas le besoin de le délivrer un enseignement quelconque parce qu'il n'est pas simplement bègue, il bafouille, il a la respiration difficile, il s'exprime de façon très très morcelée, ce qui lui fait perdre toute contenance. Donc, autre drame dans sa vie d'enfant, il perd son père à 7 ans et il est spolié de son héritage. Donc, gros sentiment d'injustice qui va peut-être expliquer son destin ensuite. À 15 ans, nous raconte Plutarque, il se serait immiscé dans un procès et il voit comment l'orateur Callistrate tourne l'opinion du tout au tout par son talent oratoire. Celui qui était en cause arrive sous les injures dans la salle et il ressort sous les applaudissements. Et ça fascine littéralement Démosthène qui se dit « mais c'est génial, le pouvoir de la parole, comment on peut retourner, c'est un instrument de pouvoir ». Alors lui se dit « je vais apprendre à argumenter ». Parce que à l'époque, il n'y a pas d'avocat. Si vous avez une cause à défendre, soit vous la défendez vous-même parce que vous êtes capable de vous imposer par la parole, soit vous prenez les services d'un logographe. Et le logographe apprend par cœur ce que vous avez à dire et il le dit à votre place. Et donc Démosthène se dit « mais ça, c'est exactement un job pour moi. Je suis bègue, je ne sais pas m'exprimer. Je vais devenir plaideur et j'aurai un logographe qui parlera à ma place ». Donc il va prendre pendant 3 ans des cours d'argumentation avec un spécialiste du droit des héritages qui s'appelle Isée, et c'est comme ça qu'il commence à se faire une réputation. Hein. Alors surtout, la grande spécificité de Démosthène, d'abord non seulement c'est son travail, son acharnement, sa volonté de maîtriser la culture la plus large et la plus diverse, mais surtout historique. C'est certainement fascinant de croiser cet homme pour ça. On raconte qu'il aurait recopié 8 fois L'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, je suis allée regarder une édition récente, ça fait 900 pages. On dit qu'il l'aurait recopié lui-même 8 fois et qu'il savait quasiment le réciter par cœur. Bon, j'ai quelques doutes, mais en tout cas, les contemporains de Démosthène se fichent chez lui en disant, dis donc, ta culture, mon coco, elle sent la mèche brûlée, elle sent la lampe. C'est-à-dire, on voit que t'as passé des nuits, tu nous ressors ton truc, tu nous craches ton truc. Bon. Et résultat, la première fois qu'il est amené à plaider, ça se passe pas très bien. Il est chahuté, il est raillé, il quitte l'assemblée sous les quolibets. Et là, il se dit, non, il faut que je puisse vraiment sortir ce que j'ai. Donc, il se met à travailler avec un ami comédien. Il va s'enfermer pendant 2 à 3 mois dans une grotte. Et là, il apprend des tirades de Sophocle et d'Euripide absolument par cœur. La bouche pleine de cailloux. Il renforce sa voix, sa prononciation. Pour pas avoir la tentation de sortir de son gueuloir, l'expression est de Flaubert. Hein. Il se rase la moitié de la tête. Et comme ça, bon, il va pas sortir de son trou. Il s'impose de réciter tous ses discours en courant, en montant des côtes, pour apprivoiser son souffle. Et il vocifère face à la mer. Enfin, cette volonté de savoir, de surmonter ses difficultés, c'est absolument magnifique. Et c'est là, à 30 ans, qu'il se tourne vers la carrière politique. Et sa première intervention, c'est pour expliquer qu'il faudrait que l'État gère sérieusement ses finances. Donc évidemment, grand succès auprès des Grecs. Et voilà comment ce jeune homme, ce bègue, fragile, souffroteux, va devenir l'un des leaders de la scène politique et militaire grecque. Hein. Il va connaître une fin assez tragique, Démosthène, parce qu'il se suicide pour ne pas tomber aux mains des troupes de Philippe de Macédoine. Et Cicéron nous dit qu'il a perdu la vie, tandis que ses concitoyens perdaient leur liberté. Ainsi finit Démosthène, le petit bègue, dont les discours auront été le chant du cygne d'une démocratie dont il reste le symbole, lui dont la culture historique et politique avait fait vibrer l'âme athénienne, et il avait pu dire « la véritable école du commandement ». Et la culture générale. Ah bah non, pardon, excusez-moi, autant pour moi, cette phrase n'est pas de Démosthène. Elle est d'un autre immense leader politique, génial improvisateur, qui pourtant apprenait par cœur ses conférences de presse, et qui par sa culture historique et politique avait fait vibrer l'âme française. Un point pour Stéphane Bern.
Un point en avance.
On aura reconnu, oui, le général de Gaulle.
Hein. Vive le général.
La culture générale, la véritable école du commandement et la culture générale.
Amen. Merci beaucoup Clémentine Borchi-Kaltenbach.
Clémentine, vous restez avec nous pour le quiz qui quelque part a déjà commencé. Séquence rieuse, mais qui permet surtout de mesurer le degré inouï de faucuterie auquel Stéphane Bern peut parvenir pour l'emporter, comme lorsqu'il maintient qu'une réponse est la bonne contre l'évidence et en jurant à sa manière, non pas sur ce qu'il a de plus cher, lui, comme c'est la coutume, mais écoutez.
Ah, je vous jure, alors là, sur ce que vous avez de plus précieux au monde...
Il s'appelle ne pas prendre de risques.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les rumeurs les plus folles circulent sur la séquence dans laquelle nous entrons à présent. Edoui Plenel et Mediapart seraient sur le point de faire des révélations fracassantes concernant la manière dont notre quiz d'histoire est conçu. Un quiz qui, depuis quelques semaines, serait truqué pour défavoriser systématiquement Stéphane Bern, qui a dit à Plenel au téléphone...
Pardon, normalement je ne suis pas complotiste, mais là, je suis obligé.
Nous démêlerons ça, pour l'instant, jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question, elle est pour vous, évidemment. On peut dire qu'elle est un petit peu compliquée aujourd'hui. Concentrez-vous, on va parler jeux vidéo. Vous aimez les jeux vidéo, Stéphane ?
Jamais, non.
Ça fait partie de l'histoire aujourd'hui. 1980, il y a 40 ans. Une année où l'on trouve de bonnes et de mauvaises nouvelles. Je commence par la mauvaise, c'est le début de la guerre Iran-Irak. Maintenant la bonne, c'est la naissance de Pac-Man, le célèbre jeu vidéo. D'ailleurs, au Japon, c'était Pac-Man. Mais on a changé en Pac-Man pour éviter les jeux de mots avec fuck dedans. Vrai ou faux ?
Ah, je vous envie, Stéphane.
Alors, honnêtement, je ne sais pas ce qui est Pac-Man ou Pac-Man.
Vous connaissez quand même le jeu vidéo Pac-Man. C'est un des jeux vidéo les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo.
Il fallait manger des...
Ah
des
oui, je vois, oui, voilà, je vois ce que c'est, mais voilà. je ne connaissais pas son nom. Écoutez, je vais dire oui, parce que ça me plaît bien.
Vous
allez dire
que
histoire,
Pac-Man,
oui.
Ce serait appelé Pac-Man
oui.
Au
oui,
Japon.
Exactement, oui.
Voyons voir.
Vous avez...
Et oui, c'est une bonne réponse, Stéphane. Monsieur Nakamura, le père de Pac-Man, avait appelé son personnage Pac-Man, une référence à Paku Paku qui désigne le bruit que l'on fait quand on mange. Les premières bonnes de jeux vidéo sont sorties aux États-Unis avec marqué Pac-Man. Tout le monde s'amusait à transformer le P en F. Du coup, il a été rebaptisé Pac-Man. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Caldebac.
Ah, on est content, hein.
Qui a le plus long règne ? La reine Elisabeth II ou Rama IX, qui a été roi de Thaïlande ?
Rama 9.
Mais pas l'air de... Vous connaissez pas le Rama 10, le roi thaïlandais actuel?
Oui, il est formidable.
Il est assez magique.
Vous tapez Vajiralongkorn.
Vous tapez son vrai nom. Son nom
Rama
sur Google.
C'était son père, oui. Donc Bhumibol Adulyadej.
Chapeau.
Et vraiment, il jouait pas Pac-Man. Hein.
Ouais. Ah, oui. Bah, il a bien fait. Regarde, voilà, voilà, on juge sur pièce.
Hein. Oui.
Bah, je suppose que si vous posez la question, c'est probablement son. Il règne depuis plus longtemps, mais dites donc, il doit être très âgé, ce monsieur. Âgé. Hein. Je vais répondre oui, mais il doit avoir pas loin de 100 ans, si je me trompe bien.
Vous avez gagné.
Alors attendez, vous avez attribué les points à Clémentine. La question, Clémentine, était qui a régné le plus longtemps, la reine Elisabeth II ou Rama 9 qui a été roi? Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est donc une bonne réponse, effectivement.
Rama 9 est monté sur le trône en 46, je crois, et il est mort il y a 3 ans. La reine Elisabeth est montée sur le trône en 52.
Ah oui, mais
couronnée en 53.
53 voilà,
et elle règne toujours.
Donc Rama 9 a régné 70 ans, 4 mois et 4 jours, 68 ans pour Elisabeth II, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
Ah ben non, elle est toujours là sur le trône, enfin, ou à côté, mais
surtout grâce au vaccin, n'est-ce pas?
Ben ça y est, oui.
C'est bien sûr, ça y est, elle a été vaccinée. Pour l'instant,
on a piqué. Quand je dis on a piqué la reine, ça veut dire qu'on a,
on a piqué la reine.
Vous devriez commencer à savoir qu'il faut faire attention à tout ce que vous dites. On a piqué la reine, on va y avoir droit.
J'ai l'ambassade du Royaume-Uni au téléphone, je répondrai tout à l'heure. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. S'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Qui a dit ça?
Oscar Wilde.
Oscar Wilde. Mais c'était pas la question, mais c'est dommage pour y avoir un point. Je vous ai fait une fausse joie. À propos de cet écrivain célèbre, une question. Est-ce que Oscar Wilde aurait pu prendre le premier escalator de l'histoire de l'humanité? Oui ou non?
Il est mort en 1901.
Stéphane, à l'Expo Universelle,
il y avait un tapis roulant à l'Exposition Universelle
mais
de Paris.
Mais c'est pas un escalator, je l'ai dit. Attention.
C'est un tapis roulant. Ouais. Est-ce que...
Donc l'escalator devait exister.
Alors, il y avait aussi le paternoster qui existait à Vienne. Le paternoster, c'est l'ancêtre de l'escalator, si vous voulez.
Des gens qui
c'est-à-dire,
qui font
ça ne s'arrête jamais. C'est un système d'ascenseur qui monte, qui descend et qui ne s'arrête jamais. Vous montez dedans au moment où il passe.
Ah d'accord, il faut que... Comme une grande roue.
Quelque part,
ça ne s'arrête pas.
Mais le tapis de l'Expo Universelle de 1900, c'est pareil.
Oh, vous m'avez bien embrouillé avec toutes vos anecdotes. Quelle est la réponse?
Normalement, en toute logique, il aurait pu...
Oscar Wilde aurait pu prendre un escalator.
Exactement.
Vous avez... gagné.
C'est une bonne réponse. Ah. Aujourd'hui, je suis magnanime. Oui, 1800.
Bah, magnanime.
Non, mais c'est pas une question de magnanime.
Du tout,
si, parce que les questions sont faciles.
Vous plaisantez.
Pardon, je minimise votre victoire. Oui, 1898, c'est le premier escalier mécanique installé au Crystal Palace à Londres. Il avançait à 2 km/h et coûtait un penny. Oscar Wilde est mort, non pas en 1901, mais en 1900, à 46 ans, à Paris. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. On ne parle pas assez dans Historiquement Vôtre de André Breton, poète et théoricien du surréalisme. Vous connaissez bien André Breton?
Non.
Non.
Je ne connais pas bien.
Bah, c'est pas grave pour la question. Puisque ma question est la suivante. Est-ce qu'il a suffisamment vécu pour lire une blague carambar qui a dû faire le sel de votre adolescence?
Alors là, les blagues carambar, moi je pense que non. Je pense qu'il a dû mourir un tout petit peu avant.
Vous avez gagné.
Un point qui vous permet d'atteindre l'égalité. Et non, André dit Dédé est mort en 66 à 70 ans. Et la blague carambar
70,
est née en 1969. Ah, d'ailleurs, en voici une. Quel métier les chiens peuvent-ils exercer?
Demande à Stéphane, hein, c'est lui qui s'y connaît en chien.
En quel métier les chiens
peuvent... Quel métier les chiens peuvent-ils exercer?
Ça ne doit pas être sérieux, parce que je pourrais dire chien de traîneau, mais...
électricien.
Ah,
c'était c'était une émission d'humour aussi et on le rappelle et par moments ça fuse avec quelques blagues de haut niveau. Ouais, très très bon. Et donc comme nous avons une égalité, c'est l'heure de la question 5, la question de rapidité, question hommage à Olivier Pouls. Quelle invention n'est pas belge? Le Big Bang, les patins à roulettes, la poire à lavement.
La poire à lavement.
Ce n'est pas la poire, c'est Brillat Savarin, la poire pour les rôtis, là.
Non,
mais la poire à lavement, avant, c'était un clister, c'était pas une poire à lavement. Est-ce que c'est... Alors, quelles sont les deux autres réponses?
Le Big Bang, les patins à roulettes, la poire à lavement.
Les patins à roulettes seraient belges.
Bah, moi, j'allais donner ma réponse, alors maintenant...
Ouais. Je vous rappelle, je vous donne un indice, c'est une question de rapidité.
Oui, bah, il a déjà répondu, Stéphane.
Et il a pu répondre faux.
Ah bon, écoutez, une réponse. Allez, alors je vais répondre différemment de Stéphane, je réponds les patins à roulettes.
Les patins à roulettes, découvrons le vainqueur de ce quiz, c'est Stéphane Bern. Effectivement, la poire à lavement n'est pas belge, en tout cas, on ne sait pas qui a inventé la poire à lavement. Si vous le savez, écrivez-nous. L'homme à l'origine de la théorie du Big Bang est l'astronome belge Georges Lemaître, et l'inventeur des patins à roulettes est Jean-Joseph Merlin en 1759, qui a d'ailleurs failli mourir d'une démonstration. Il s'est embouti dans un grand miroir.
La Belgique n'est pas française à cette époque, c'est dommage. Hein. C'est plus tard, parce que là, j'aurais pu ergoter.
Ah, vous auriez pu déposer une réclamation.
Vous êtes bien battu, quand
non.
même.
Oh, merci. Oh, il a le triomphe
merci,
modeste.
Merci, monseigneur. Bravo, merci de votre indulgence. Ouais.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. Chaque après-midi, une rencontre exclusive entre trois personnages de l'histoire issus d'époques différentes, mais ayant un point commun aujourd'hui, Stéphane, les as de l'impro.
Oui Mathieu, les champions de l'improvisation après Ludwig van Beethoven, je vais vous raconter l'histoire de Martin Luther King, un orateur et un improvisateur de génie. Et quant à vous, vous allez nous parler du roi de l'impro, d'un roi de l'impro encore bien vivant, mais surtout un mytho, non ?
Oui, alors je sais bien sûr, beaucoup de nos fans l'attendaient, j'aurais pu vous parler tout simplement de moi, un génie suisse du saxophone, j'aurais pu comme ça dégainer mon instrument et vous offrir un petit bœuf. Bon, ça c'est John Coltrane dans l'Avant 64, mais je vous assure que je jouais à peu près pareil dans ma jeunesse.
Ah oui,
oui, bon, je suis mytho, mais pas autant que mon as de l'impro cet après-midi, Serge le mytho de son vrai nom Jonathan Cohen. C'est son histoire la vraie que je raconterai tout à l'heure.
Et eux ne disent que la vérité tous les jours autour de cette table. Ils remontent le temps aux origines d'un objet ou d'un plat. Alors, pour parler d'un objet, c'est David Castello-Lopez.
Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler du prompteur, hein, qui est le contraire de l'improvisation, qui permet de ne pas improviser du tout.
Un plat, c'est forcément, c'est Olivier Pouls.
Ouais, et qui a bien respecté la thématique, une fois de plus de notre émission, les improvisateurs.
Ce ne sera pas un plat improvisé, justement. C'est un plat qui se millimètre. Enfin, c'est une sauce, la meilleure de toutes les sauces sucrées, ce qu'on appelle la crème anglaise,
qui n'est pas
que
anglaise.
Les Anglais nous auraient peut-être un peu piqué.
Kif kif bourricot, voilà une expression qu'on utilise vraiment tous les jours au quotidien et vous nous la décryptez, mon cher Stéphane.
Non, disons que j'utilise moi dans mon quotidien parce que vous savez que je date un peu.
Oh non, je ne me permettrai pas de dire
oui,
ça.
Je suis un peu suranné, un peu obsolète, un peu désuet. Et donc je dis encore, c'est kif kif bourricot.
On dit beaucoup c'est kif kif.
Oui.
Moins c'est kif kif bourricot.
Mais c'est la phrase exacte qu'on disait de mon temps.
Oui.
Voilà. Eh bien, je vais vous dire d'où ça vient.
Et tout de suite, découvrons Stéphane, notre deuxième géant de l'impro. Ses discours sont célèbres, mais vous allez voir qu'il n'avait pas besoin de notes. Il vivait à l'époque où on disait « kif kif bourricot », enfin lui il disait plutôt « kif kif bourricot ». Stéphane nous raconte Martin Luther King.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
I have a dream, Stéphane. J'ai un rêve, Stéphane, que vous nous racontiez l'histoire d'un as de l'impro qui a marqué l'histoire. Martin Luther King.
Eh bien, le rêve va devenir réalité, Mathieu, puisque je vais vous raconter en effet l'histoire de ce discours prononcé par le pasteur Martin Luther King le 28 août 1963 à Washington. L'iconique « I have a dream », un discours d'autant plus extraordinaire, vous l'avez compris si on en parle aujourd'hui, qu'il a été improvisé. Même l'exorde du discours, à savoir le très fameux « I have a dream », n'était pas dans ses notes. À vrai dire, toute la dernière partie de son allocution, celle qui est restée célèbre, celle dans laquelle il parle de son rêve qu'un jour, les petits-enfants noirs et les petits-enfants blancs joindront leurs mains comme frères et sœurs, a été totalement improvisée. Comme une sorte d'inspiration divine, un moment dans le discours où tout a basculé, où l'orateur politique a laissé le pasteur militant reprendre les rênes.
« I have a dream that one day... » Down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama...
Un véritable prêche, non. C'est comme ça d'ailleurs que le présente son avocat et conseiller Clarence Jones quand il se souvient de cette journée et du moment où Martin Luther King a laissé ses notes de côté pour s'adresser plus spontanément à la foule. Il raconte avoir soufflé à la personne qui se trouvait à côté de lui sur l'estrade. Ces gens ne le savent pas, mais ils sont sur le point d'aller à l'église. Imaginez la scène. Martin Luther King se trouve devant un parterre de près de 250 000 spectateurs. Ce jour d'été 1963, blancs et noirs réunis ont marché ensemble, des heures durant dans les rues de la capitale fédérale, au nom de la liberté. C'est l'apogée du mouvement non-violent pour l'égalité des droits. En fin d'après-midi, la foule s'est amassée devant le mémorial de Lincoln pour entendre le discours de chacun des 10 leaders qui doivent prendre la parole ce jour-là. Et ce sont les mots de Martin Luther King qui vont rester à jamais gravés dans leur mémoire. Pas ceux qu'il a préparés pour l'occasion avec l'aide de son conseiller Clarence Jones, mais ceux qu'il va prononcer de manière spontanée. La chanteuse de gospel Mahalia Jackson, qui se tient derrière lui sur le podium, lui lance une idée. « Parle-leur de ton rêve, Martin. » Martin Luther King fait une pause, hoche la tête, met ses notes de côté et prononce alors une phrase, la phrase. Une phrase toute simple, mais qui illustre si bien et si justement son combat pacifique pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il évoque à la fois la possibilité d'un avenir meilleur tout en soulignant les promesses non tenues de l'Amérique. On y retrouve toute l'essence du personnage, du jeune pasteur humaniste sincère, passionné, qui avait su toucher le cœur de millions d'Américains 8 ans plus tôt, en 1955, et faire naître symboliquement le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Ce jour-là, rappelez-vous, un autre nom était entré dans l'histoire, celui de Rosa Parks, cette femme noire qui a refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus qui la ramenait de son travail. À cette époque donc, Martin Luther King n'est encore qu'un jeune pasteur inconnu de 26 ans. En 1963, lors de son célébrissime discours, il devient une figure médiatique majeure, un homme dont l'influence est considérable dans le pays. Saviez-vous que c'est même un peu grâce à lui, à l'attention que lui portent les médias, bon et aussi à Frank Sinatra et à la mafia, on l'a dit, que John Fitzgerald Kennedy remporte l'élection présidentielle en 1960 ? Grâce à une affaire qui, quelques semaines avant le vote, avait pris des proportions nationales, l'emprisonnement de Martin Luther King à la suite d'un sit-in pacifique à Atlanta. L'incarcération fait alors scandale, d'abord parce qu'elle se fait sous un prétexte fallacieux, une sombre histoire d'infraction mineure au code de la route, et ensuite parce que le président républicain Eisenhower refuse d'intervenir. Pour le candidat démocrate Kennedy, c'est une aubaine. Et lorsqu'il parvient à le faire libérer dans une intervention très médiatisée et à seulement 8 jours des élections, il semblerait que cela ait fait pencher la balance en sa faveur. Alors comment ce simple pasteur originaire d'Alabama s'est-il ainsi hissé au cœur du débat politique américain ? Si je pose cette question, c'est parce que la réponse nous aide à comprendre comment il en est arrivé au discours de 1963 et à cette improvisation géniale du « I have a dream ». Martin Luther King, c'est une personnalité hors du commun. Un homme qui s'est enthousiasmé, touché et surtout rassemblé, aussi bien les Noirs que les Blancs libéraux. Pourtant, rien ne prédestinait vraiment le jeune Michael Luther King Jr., c'est son vrai nom de naissance, à devenir une icône politique. Sa famille, ancrée dans la tradition des pasteurs noirs du Sud, n'est pas militante. Quand il naît à Atlanta, en Géorgie, en 1929, il naît dans un milieu de classe moyenne aisée, dans un quartier prospère, plutôt bien intégré. Toutefois, cette enfance protégée ne l'empêche pas d'être très tôt confronté au racisme qui fait toujours rage dans le sud des États-Unis. À son système ségrégationniste, toujours en place dans les ex-États confédérés depuis la fin de la guerre de sécession. Bien qu'il se destine à devenir pasteur baptiste, comme son père, il s'intéresse à bien d'autres sujets que la théologie durant ses études, et notamment aux moyens de lutter contre les injustices sociales. La non-violence et le concept de désobéissance civile prôné par Gandhi trouvent chez lui un écho particulier, compatible avec sa foi, lui qui est un libre penseur. Il les étudie avec attention, persuadé qu'il s'agit là d'une solution plus efficace que la violence pour se faire entendre. Et la suite va lui donner raison. Cette approche, ainsi que sa personnalité enthousiasmante, sa rhétorique habile et la respectabilité que lui confère son métier de pasteur, vont lui permettre de prendre la tête du petit groupe de défenseurs des droits civiques qui défendra Rosa Parks à Montgomery, en Alabama. Mouvement qui sera, vous l'avez compris, à l'origine de la naissance du mouvement américain pour les droits civiques. C'est tout cela que l'on retrouve dans le discours du 28 août 1963 à Washington. C'est cette simplicité, cette justesse, la spontanéité et la conviction qui transparaissent derrière et qui font de « I have a dream » l'un des discours les plus mythiques de tous les temps. Pensez-y pour la prochaine fois, Mathieu. Au lieu de lire vos notes.
J'y penserai, oui.
Rien ne vaut des paroles qui viennent du cœur.
Mais moi, je ne rêve pas, je ne me souviens pas de mes rêves.
Faute d'un prix Nobel de la paix comme l'a reçu Martin Luther King en 1964, 4 ans avant d'être assassiné. Cela vous vaudra peut-être, qui sait, le prix Pulitzer.
Oui, c'est probable, je pense. Je pense que j'y vais tout droit.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est sans aucune note que nous accueillons à distance, puisqu'il est à Los Angeles, un fervent défenseur de l'histoire de la littérature africaine, lauréat du prix Renaudot 2006 pour ses mémoires de Porc Épic, l'écrivain Alain Mabankou. Bonjour. Hello même, Alain.
Bonjour.
Alors, c'est la grande question que tout le monde se pose à l'issue du récit de Stéphane.
Oui.
Est-ce qu'il fait beau à Los Angeles?
Ben, il fait toujours beau à Los Angeles en général. Et quand on entend la voix d'un grand homme comme Martin Luther King,
il fait encore plus
beau. On est toujours dopé.
C'est assez étrange, quand je lisais mon récit, que j'entends la voix de Martin Luther King, on est gagné par l'émotion. Presque 60 ans après que ce discours ait été prononcé, enfin non, un peu moins de 60 ans, parce que je suis né en 63 aussi, ça m'ennuie qu'on dise que j'ai 60 ans. Ça vous évoque quoi? Ça provoque quoi, à part le rire de ma bibi?
Ça évoque beaucoup de choses. D'ailleurs, quand vous entendez, c'est la voix déjà, la façon même de l'éloquence. N'oublions pas que Martin Luther King est l'un des plus grands orateurs américains jusqu'à ce jour. La plupart de ses discours étaient toujours empreints de ce lyrisme. Et le lyrisme le plus fort ne peut parvenir que par le biais de l'improvisation. Si vous n'improvisez pas, ça se sent, vous êtes en train de lire, c'est laborieux, c'est pas vous qui avez écrit. On pousse toujours les papiers à côté pour lire quelque chose. Je me souviens peut-être les anecdotes qu'on disait en France là-bas, que le plus souvent François Mitterrand faisait écrire ses discours et au moment de les prononcer il commençait à dire d'autres choses qui restaient. Souvenez-vous l'oraison funèbre de Mitterrand du côté pour Bérégovoy, c'était un chef-d'œuvre en soi-même. On en arrivait même à pleurer.
Alain Mabankou, j'entends, vous êtes à Los Angeles, on entend d'ici avec Stéphane votre sourire, votre optimisme, on dirait. Vous avez rejoint le mouvement Black Lives Matter en mai dernier, en réaction à la mort de George Floyd tué par des policiers.
Oui.
Comment vous faites pour garder cet enthousiasme? Enfin, quand on écoute Martin Luther King, on se dit c'était il y a tellement d'années,
oui.
Et les gens sont toujours aussi cons. Comment on fait pour garder la foi?
Mais je pense qu'il faut garder la foi. Même à l'intérieur même de ces Noirs américains, il y a des dissensions. Ah. Et donc, moi, je pense que aller vers les Black Lives Matter, pour moi, ça me permet aussi de comprendre ma condition d'homme noir et aussi aider ce qui se passe en France pour qu'on puisse comprendre aussi sous quel angle il faut traiter les problèmes. On n'est pas toujours dans cette sorte de guerre. Et ce qu'a apporté Martin Luther King, c'était le souffle de la pacification, même de la discussion. Il y avait deux tendances, la tendance la plus violente et la plus brutale, Malcolm X, et la tendance la plus pacifique et ouverte, celle de Martin Luther King. Et moi, chez les Black Lives Matter, j'adore ceux qui sont dans cette tendance de discussion, d'ouverture.
Dans votre dernier livre, Rumeurs d'Amérique, vous dressez le portrait d'une autre Amérique, celle dans laquelle vous vivez, où vous enseignez depuis 15 ans maintenant la littérature francophone à l'université de d'UCLA. Cette Amérique-là d'aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte encore le discours de Martin Luther King? Est-ce que on l'a oublié un peu ou est-ce que il inspire toujours la jeunesse?
Je pense que ce discours reste un moment classique même dans l'histoire des États-Unis. Mais lorsque vous avez des passages creux, comme le passage de la présidence d'un Donald Trump qui peut prêcher le contraire. Donald Trump, c'est l'anti-discours de I have a dream. Donald Trump, c'est I have a cauchemar, si on peut mélanger avec le français, quoi. I have a nightmare. Je peux dire, Donald Trump aurait pu écrire I have a nightmare, que ça marcherait. Aujourd'hui, le discours de Martin Luther King n'est pas du tout, ne touche pas beaucoup des gens que catéchise Donald Trump. On est plutôt dans le sens de la haine. Les républicains ont embrassé la division, alors que dans le temps, le Parti républicain était un parti qui était aussi ouvert aux droits civiques que prêchait justement Martin Luther King. Donc l'Amérique d'aujourd'hui, c'est une Amérique qui a oublié ce qui a fondé son âme, c'est-à-dire les luttes, que ce soit de Martin Luther King, que ce soit de Malcolm X, que ce soit aussi des gens comme de Mohamed Ali, la guerre du Vietnam. Vous savez que Martin Luther King aussi, était aussi contre la guerre au Vietnam.
Bien sûr, bien sûr.
Alain Mabocou, normalement, sauf si l'autre s'accroche au bureau ovale, Joe Biden arrive à la Maison Blanche. Vous avez dit sur Twitter, un cabinet très diversifié, le visage de l'Amérique, chapeau. C'est vrai qu'il est féminin, de toutes les origines, de toutes les couleurs. Ça vous donne de l'espoir dans cette Amérique où vous vivez?
Oui, ça me donne de l'espoir, parce que ça permet aussi aux petits enfants noirs américains qui se lèvent le matin quand ils regardent la télévision, son ministre de tutelle, peut-être le ministre de l'éducation, il est noir. Quand il va de l'autre côté, peut-être le ministre des finances, c'est une femme. Quand il va de l'autre côté, je sais pas, la vice-présidente, c'est à la fois noire, indienne, etc., etc. Ça donne la possibilité aux enfants de se dire que les portes ne sont jamais fermées. Et c'est peut-être dans ce sens qu'il faut aller. Peu importe les résultats que ça va donner, mais donnant aux gens la chance de pouvoir au moins accéder à des postes qui jusqu'alors étaient réservés à ceux qui avaient la couleur de peau qu'il fallait à l'époque qu'il fallait.
En tout cas, merci beaucoup. Alain Mabocou, pour votre éclairage et pour découvrir votre Amérique. Je vous invite, chers auditeurs, à lire son autobiographie américaine, comme vous le dites vous-même, c'est Rumeurs d'Amérique, et qui est paru à la rentrée aux éditions Plomb. C'est un grand bonheur. Merci d'avoir été avec nous, Alain Mabocou.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les génies de l'impro. Après Beethoven et Martin Luther King, vous nous parlez, Mathieu, d'un roi de l'improvisation actuel et vivant, Jonathan Cohen, 40 ans, déjà culte avec son personnage de Serge le Mytho.
Le sens de la comédie, c'est inné. L'impro, en revanche, ça se travaille. Pour arriver au niveau où il est aujourd'hui, Jonathan Cohen a dû écouter et réécouter inlassablement les meilleurs impros du maître français du genre, j'ai nommé Stéphane Bern, le Ben Stiller luxembourgeois, qui a cette faculté de partir en impro au milieu des récits les plus sérieux, créant ce qu'on appelle une rupture comique.
Cette habitude lui vaut le surnom de sorcière. Il faut dire qu'elle n'hésiterait pas à percer un trou dans son paquet. Il faut dire qu'elle n'hésiterait pas à percer un trou dans son parquet.
Bien évidemment, il faudra encore beaucoup de travail à Jonathan Cohen pour rejoindre Stéphane au panthéon des rois de l'impro, mais il a déjà fait la moitié du chemin avec son célèbre personnage de Serge le Mytho, des millions de vues sur YouTube et une manière d'élever le mytho au rang d'art, comme dans l'épisode où il raconte à sa grand-mère comment il s'est un jour retrouvé à devoir poser un avion.
J'ai fait atterrir un avion. J'étais parti au Panama pour chercher une cargaison de chapeaux que j'avais commandé avec des gars d'un gang un peu, voilà, crado. Je leur donne l'oseille et faut dire ce qui a été. Je leur ai fait un peu à l'envers. Les gars, ils m'en veulent. Et là, ils me disent, mec, putain, on va te retrouver, on va te tuer. Toi, ta mère, ta chère, elle va les prendre, elle va les enculado. Et j'ai fait, waouh, les gars, si vous en tuez l'ado, qui que ce soit dans ma famille, je vous défonce.
Voici un extrait qui, je crois, résume bien le concept de Serge le Mytho, basé sur l'extraordinaire capacité de Jonathan Cohen à raconter n'importe quoi avec un aplomb incroyable. Premier point commun avec David. Vous l'avez entendu également, sa mythomanie est de celle qu'on apprécie car elle est drôle et nous fait voyager, parfois même jusqu'au Panama. Très différent donc des vrais mythomanes qu'on croise dans la vie. Vous savez, le type que vous rencontrez dans une soirée et quand vous lui demandez ce qu'il fait dans la vie, et il vous balance des trucs invraisemblables. Comme par exemple, dernièrement, j'en ai un qui m'a dit...
Mais c'est moi qui te présente l'Eurovision.
C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. C'est ce qu'il me dit. Je la connais aussi. Elle m'a même fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Alors vraiment, il y a des mythos. Jonathan Cohen n'est pas comme ça dans la vie. Il ne mythonne que lorsqu'il incarne Serge. Quoique... Jonathan naît à Paris en 1980, deuxième point commun avec David. Petit-fils de rabbin, pas troisième point commun avec David, il est élevé par sa mère dans la banlieue de Pantin après le divorce de ses parents. Garçon timide, il passe son enfance à raconter des histoires dans sa chambre, il s'invente des frères, des sœurs, un groupe de rock imaginaire, des idylles avec Vanessa Demouy, la pulpeuse héroïne de classe mannequin, qui ne l'a pas fait. Comme tous les disciples du club Dorothée, il rêve d'avoir les muscles de Sangoku et le succès avec les meufs de Nicky Larson.
Dans la chaleur de la nuit,
Le mal est toujours puni.
Mais si dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni, dans la moiteur de sa chambre d'ado, il est toujours puceau. Troisième point commun avec David. Jonathan raconte, j'étais gros, timide de ouf et en galère avec les meufs. À l'école, c'est un fouteur de merde sympatoche, déjà gaulerie, se souvient-il. C'est sur les bancs du collège qu'il affûte son sens de l'impro, ses premières réparties, mais bon, pour l'instant, c'est encore un solitaire. Je jouais seul, je me suis fighté avec un milliard de gens dans ma chambre, surtout des Tchétchènes. Je les ai tous battus. À l'école, il teste ses premiers mythos. Je racontais que mon père avait créé K2000 et qu'il fabriquait des mini K2000 pour enfants. Vers 14 ans, j'ai fait croire que j'avais pécho une meuf qui m'avait donné sa photo dans le métro avec son numéro. Sauf qu'un gars a testé le numéro. L'humiliation était telle que je n'ai plus jamais recommencé. À force de s'inventer une vie de serial shopper milliardaire chef du GIGN, il rate son bac, mais se découvre très vite une passion pour la comédie. Un jour, il vient d'assister à un cours d'impro avec un ami, un peu par hasard, et là, c'est la révélation. Comme le jour où David est tombé sur la composition du béton armé dans les pages de Passion BTP Magazine, le mensuel des amoureux du gros œuvre. À cette époque, Jonathan est commercial dans une entreprise de fenêtres. Il lâche tout. Il prend des cours de théâtre et intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique où il sent très vite, un peu comme Nabila à l'Académie Française. Dans ma promo, il n'y avait que des tronches. Moi, ignare total, j'avais vu Scarface et j'ai passé le concours pour faire comme Van Damme dans Bloodsport. Effectivement, il y a dû avoir un choc des mondes. Jonathan passe par la case doublage, il a d'ailleurs notamment doublé Brad Pitt et c'est en 2006 qu'il fait ses débuts à l'écran dans Comme t'y est belle au cinéma, puis dans Bref sur Canal+, viendra ensuite la série Bloqué et le fameux personnage de Serge Lumiteau qui deviendra un programme à part entière. Serge, c'est ce collègue qui a la machine à café et capable de vous soutenir Dieu dans les yeux, un peu Cahuzac style, que oui, il est doté d'un pénis de 43 cm et qu'il en a fait usage pas plus tard que samedi lors d'une partie fine avec Jennifer Lopez et Kim Kardashian. Parfois, Jonathan se surprend lui-même. Quand je revois certains épisodes, je ne me reconnais pas. J'ai dit ça, moi, c'est sorti de mon cerveau. Avec l'impro, j'ai un truc. Je suis comme possédé. C'est comme David quand il se réécoute en podcast et qu'il s'entend dire des trucs comme...
Aux origines de l'humanité, il y avait les chauds du cul et les pas chauds du cul. Et aujourd'hui, à quelques exceptions près, la totalité de l'humanité est chaude du cul.
Comme David, Jonathan Cohen ne se comprend pas toujours lui-même. Mais peu importe, le succès est là. Épatant dans Family Business sur Netflix, l'histoire d'une production familiale de marijuana, désopilant en faux bachelor complètement con dans La Flamme sur Canal+. Il peut aussi être touchant dans le rôle d'un rabbin dépressif suite à une circoncision ratée.
J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé.
Enfin, en 2020, les carrières de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les... Ça y est, vous venez de comprendre pourquoi j'ai fait ce parallèle dans toute la chronique. En 2020, donc, les carrières de David et Jonathan prennent des chemins résolument différents. L'un tourne avec Catherine Deneuve, l'autre signe sur Europe 1. L'un a toutes les filles à ses pieds, l'autre moins. Mais c'est pas grave, David. Vous avez quand même des fans qui sont toujours là pour vous, même quand vos thèmes sont moyens excitants.
Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des origines du Tipex.
Ah, super.
Bah voilà, au moins, vous avez Clémentine. C'est déjà ça, faut pas être jaloux.
Comment il a réussi à poser l'avion alors qu'il n'a jamais piloté autre chose que des hélicoptères?
Mais enfin Stéphane, en étant futé.
Là je me dis, un hélico, un avion au bout du compte c'est la même chose. Je vais le faire atterrir comme un hélico. Et là je fais tourner l'avion sur lui-même comme ça tu vois. Comme les hélices d'un hélico. Je te le dis, je te le dis, l'avion il était comme ça. Je prends la force centrifuge. Et là je vois un champ de blé juste à côté de Charles de Gaulle étoile comme ça. Là je vois trois vaches qui sont là, qui me disent... Je dis putain, les filles barrez-vous, vous voyez pas que je vais atterrir. Il n'y a pas plus con qu'une vache, Huguette. Je me dis, c'est soit elle, soit nous, tu vois.
Une petite leçon d'impro, Stéphane, sur le thème du posage d'avion sans permis.
Incroyable. Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il n'a pas connu l'expression « kiff, kiff, bourricot » que nous allons analyser tout à l'heure avec Stéphane. Il est radicalement jeune. C'est David Castello-Lopez qui remonte pour nous aux origines d'une invention et d'un objet.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est le prompteur. Je vais commencer par sortir une phrase un petit peu intello, là.
Ah, on se prépare.
Vous êtes prêts?
Hein? Ah, attendez.
Attendez, on met notre ceinture.
Ok. Ok, on y va.
Ça peut nous dire d'attention.
Vous
serrez
la ceinture.
Non, mais.
Vous mettez votre ceinture de sécurité.
Sécurité,
d'accord,
oui,
d'accord.
Bien sûr.
Oui,
ouais.
J'ai cru que vous remettiez la ceinture de votre pantalon. Ah, ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant?
Ah oui, non.
Ceinture de sécurité, pardon.
Oui. La télévision et l'image animée, en général, c'est le média le plus mensonger. Ok, voilà. Bon, alors je vais m'expliquer. Le truc avec la télé et le cinéma, c'est que ça inspire confiance. Plus que le son tout seul ou l'écrit avec l'image animée, on se dit, bah, c'est la réalité puisque je la vois et je l'entends. Mais précisément parce que ça inspire confiance, c'est super plus facile pour la télévision et le cinéma de mentir et de transmettre des réalités complètement fausses qui ont l'air implacables. Dans ce studio, par exemple.
Ah.
où cette chronique est en train d'être filmée.
Mais oui.
Oui. Hein? Oh, vous êtes beau d'ailleurs dans le retour.
Si pendant ma chronique, on montre votre visage rieur, Stéphane, eh bien on va se dire, quel succès cette chronique. Mais même le grand Stéphane Bern semble l'apprécier. Si en revanche, on montre le visage d'Olivier Pouls, son air de gargantua privé de dessert, oui, et bien on va se dire, qu'est-ce qu'elle est naze cette chronique. Rendez-nous y trône, ça c'était du journalisme, merde. Et de la même façon, si vous filmez de face un monsieur qui lit un prompteur sans jamais filmer aussi le dit prompteur, vous avez l'impression que Stéphane connaît tous les textes de Secret d'Histoire sur le bout des doigts. Bon, pour lui, il se trouve que c'est vrai, hein, parce que
c'est un cas unique dans la télévision.
Sa mémoire est prodigieuse, mais pour les simples mortels de l'audiovisuel, c'est faux. Emmanuel Macron, quand il nous dit qu'on va être confiné jusqu'en 2024, il a l'air de le sortir de ses tripes. Mais en fait, non, il le lit. Et ce mensonge, c'est le prompteur qui le rend possible. Alors, vous avez tous fait de la télé ici, donc vous savez comment ça marche,
c'est
un prompteur.
C'est nul, le prompteur.
Mais pour ceux qui ne savent pas, le truc brillant du prompteur, c'est que le texte que vous devez lire, il défile devant l'objectif de la caméra.
Oui.
Et que donc, quand vous regardez le texte pour le lire, eh bien, vous regardez aussi oui. dans l'objectif qui se trouve derrière.
C'est pour ça qu'on a le temps qu'on louche.
Exactement. Non, parce qu'on apprend.
Oui, c'est ça.
Oui, ben moi, j'ai pas eu le temps d'apprendre, Stéphane. Je vais virer le prompteur très vite. Je trouve ça très inconfortable.
Je suis un peu d'accord. Mais alors, comment c'est possible? Eh bien, parce qu'il y a une vitre inclinée qui est placée devant l'objectif. Le texte défilant, il se reflète dans la vitre, donc vous le voyez. Mais par ailleurs, cette vitre, bah, c'est une vitre, donc elle est transparente et on peut filmer à travers. Voilà. Et maintenant, d'où ça vient, hein? Voilà, après
qui
cette longue introduction.
Un Américain.
Oui, bah, bien évidemment. Alors, ça vient sans doute des débuts de la télévision aux États-Unis, parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, dans les débuts de la télévision, il y a plein d'acteurs qui venaient du théâtre et qui sont passés devant la caméra pour présenter des trucs et même jouer dans des petites fictions en direct. Et brusquement, ils ont dû commencer à apprendre une beaucoup plus grande quantité de textes, parce que la télévision était en direct à l'époque, et c'était pas une pièce qu'on jouait pendant 3 mois, c'était 3 pièces par semaine. Et visiblement, il y avait des acteurs qui luttaient vraiment, donc ils ont commencé à demander le truc qui est un petit peu l'ancêtre du prompteur, c'est-à-dire un gars à côté de la caméra qui tient des cartons avec le texte dessus et qui les fait défiler. Mais des fois, ils se trompaient dans le rythme, c'était un peu bordélique. Et puis un jour, ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait automatiser tout ça pour que ce soit plus régulier. Et ça a été fait en 1948. Le premier prompteur, c'était un texte écrit sur du papier d'emballage de boucher qui se déroulait dans un fond de valise avec des courroies reliées à un moteur. Le premier président qui a utilisé une version un petit peu améliorée de ça, c'est Eisenhower en 1952, avec un rouleau qui faisait des dizaines de mètres de long. Mais le problème à ce moment-là, c'est que le texte était encore placé au-dessus de la caméra ou sur les côtés, et donc le regard de celui qui parlait était un petit peu déporté comme ça, si je peux faire avec la caméra, ça faisait un peu un truc comme ça, c'était un peu naze, vous voyez. Mais en 1959, il y a un producteur de télévision qui a trouvé le coup du miroir et qui a donc permis aux journalistes et aux hommes politiques de faire vraiment genre. Alors jusqu'aux années 80, c'était encore un rouleau de papier qui défilait. Ensuite, bien sûr, c'est devenu des écrans d'ordinateur, ce qui permet de changer le texte jusqu'au tout dernier moment. Normalement, il faut toujours un employé derrière le prompteur qui fait défiler le texte à mesure que la personne le prononce. Mais la dernière innovation en date, c'est un prompteur qui comprend ce que vous dites et qui donc ajuste automatiquement la vitesse de défilement au débit de votre voix pour que le mensonge donc soit encore plus complet.
Oh, c'est fou.
Mais pardon de démystifier les choses. Mais vous savez, quand vous allez à un concert, par exemple,
j'ai vu des concerts comme ça. Je ne veux pas savoir.
Pardon, mais Charles Aznavour avait des prompteurs partout.
Mais je pense qu'il connaissait la bohème quand même depuis le temps.
Non. Peut-être qu'il l'avait oublié avec le temps.
Oui, il l'avait oublié.
C'est un karaoké, en fait.
Et en fait, tous les chefs d'État, sauf une, il y a un seul chef d'État qui refuse.
Jean-Pierre Pernaut.
Non, c'est Margrethe II de Danemark. Ah. Et donc, pour son discours du Nouvel An, elle a ses fiches. Sauf qu'il y a quelques années, les fiches étaient mélangées. Et donc elle a cherché pendant les vœux, elle cherchait les fiches par terre, tout était tombé, et on lui a dit mais quand même, non, alors maintenant on les lui agrafe, et donc ça tient, voilà pour l'anecdote.
Et voilà l'anecdote, il a sali la mémoire de, comment elle s'appelle?
Non, elle vit toujours, Margrethe II de Danemark.
Margrethe II de Danemark et Charles Aznavour. On les embrasse. Ils ont été habillés pour l'hiver. Lui, il arrive avec une recette qui ne s'improvise pas, la recette de la crème anglaise. C'est Olivier Pouls, le gargantua frustré.
Et je vous la fais sans prompteur.
Ça, c'est vraiment fort.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Longtemps, j'ai essayé de faire la cuisine seule, en autodidacte. Hélas, la dernière personne à qui j'ai fait à manger l'a mal vécu.
Elle est morte, non?
N'exagérez pas, Stéphane, elle est simplement dans le coma. Depuis, la justice m'interdit de cuisiner sans les conseils de mon ami Olivier Pouls, et c'est beaucoup mieux comme ça.
Et est-ce que vous savez faire de la crème anglaise?
Bah certainement pas, c'est compliqué, non?
Je sais la consommer en revanche.
Ouais. Vous la consommez avec quoi? Parce que c'est une sauce de base, on va dire, qui sert dans beaucoup de plats de pâtisserie.
Avec un gâteau au chocolat
oui.
Et ça c'est très très bon, parce que ça c'est un peu sec le gâteau au chocolat.
C'est ça que vous allez faire quand je viens dîner chez vous là bientôt?
Je crois.
C'est ça. Ah oui. Je posterai une photo sur Instagram de ce picuit que vous me préparez. Olivier.
Bon alors cette crème anglaise, on pourrait penser bien évidemment que comme son nom l'indique, elle est anglaise. D'ailleurs, en Angleterre, on a une crème qu'on appelle le custard, qui ressemble un petit peu aujourd'hui à ce qu'est cette crème anglaise. Et les Anglais ont longtemps essayé de nous faire croire que ce custard, qui existe en réalité depuis le XIIIe siècle en Angleterre, était l'ancêtre de la crème anglaise et qu'on s'en était largement inspiré. Faux, suis-je en mesure de vous le dire. J'ai retrouvé des recettes de custard qui datent du XIVe et du XVe siècle et en réalité, elles n'ont rien à voir avec ce qu'est notre crème anglaise origine. D'abord, première chose, la vanille à l'époque n'est pas connue en Angleterre et elle n'est pas utilisée. Et il faut savoir que c'est une sauce qui est salée. Alors, oui, il y a du lait, il y a des jaunes d'œufs, mais la liaison se fait, tenez-vous bien, avec de la moelle. Rien à voir, évidemment, avec ce qu'on mange aujourd'hui comme étant de la crème anglaise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du XVIIe siècle, il est de très bon ton en Angleterre, où on mange, et on le sait, assez mal, de faire venir ses cuisiniers de France. Et beaucoup de familles nobles et riches anglaises vont faire leur marché en France et font venir des cuisiniers qui vont amener, on va dire, un souffle nouveau à cette cuisine sans grande saveur, et notamment, un certain nombre d'entre eux, au XIXe siècle, vont se mettre à faire des sauces qui sont très proches de ce qu'est aujourd'hui la crème anglaise. Alors, si elle est probablement née un petit peu en Angleterre, elle a été créée par une batterie de cuisiniers français. On peut pas dire lequel a exactement pondu la recette un matin en se levant, mais en tout cas, en s'inspirant de différentes sauces et en utilisant des techniques qui s'étaient beaucoup développées, et puis des produits qu'on ne connaissait pas, eh bien, c'est là que serait née cette fameuse crème anglaise, déclinaison de ce qu'on appelait la crème à la française, d'ailleurs. Et les premières recettes de crème anglaise telles qu'on les connaît datent des années 1880. Alors, pour la réaliser, mon cher Mathieu, ou mon cher Stéphane, puisque vous allez nous inviter bientôt à
moi, j'ai déjà reçu. Là, c'est le match photo.
C'est très facile, en fait. C'est juste un petit point de cuisson qu'il faut surveiller. Mais il faut 4 jaunes d'œufs, 50 grammes de sucre, 50 grammes de lait, et une gousse de vanille. Vous séparez les blancs des jaunes. Alors les blancs, vous pouvez les monter en neige, les pocher dans du lait, ça vous fera le support pour faire des œufs à la neige.
C'est vrai que tout ce que vous avez décrit là, il sait pas le faire.
Bon, pour ça, pour l'instant, c'est simple. Alors, l'idée, c'est de porter le lait à ébullition, de gratter la petite gousse de vanille, de faire infuser les grains, de mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre, on appelle ça blanchir. Vous les mélangez bien, le mélange doit être mousseux. Et ensuite, vous allez verser petit à petit le lait très chaud sur vos jaunes d'œufs mélangés. Et à ce moment-là, il faut tout le temps mélanger de manière à ce que ça fige, que ça s'épaississe, mais que ça ne cuise pas. Pour ça, l'importance de mélanger beaucoup.
Tout ça en me préparant l'apéro, parce que moi, il ne faut pas que je m'ennuie non plus. Donc,
il ne faut pas que la température monte trop, parce que sinon, les jaunes, ils vont se mettre à figer.
Et alors,
c'est raté.
À faire une omelette.
Voilà. Donc, vous le faites au bain-marie tranquillement.
On recommandera des Liverous,
Et voilà. Et dès que vous avez une texture qui s'épaissit, vous arrêtez tout de suite, vous la sortez, et elle est prête.
Très bien.
On retrouve cette recette avec un prompteur sur le site d'Europe1.fr pour la faire pas à pas tranquillement.
Et bientôt donc dans mon assiette chez Stéphane ou David d'ailleurs. On peut aussi vous dire.
Parce que David n'a pas l'air d'être très cuisine, David.
Oui, alors que nous, on adorerait la bacalhau à brache.
C'est un de mes plats préférés du monde. Mais c'est vrai.
Je vous le fais dans les semaines qui viennent.
Très très bien. On a hâte de ces jours qui viennent.
Pour moi, de toute façon, j'aime tout. C'est kiff kiff bourrico.
C'est kiff kiff bourrico. Et kiff bourrico, c'est l'expression du jour que nous décortique Stéphane dans le mot de la fin.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Gustave Flaubert, Émile Zola, Stéphane Bern.
Cherchez les
La littérature française ne compte plus ses génies. Des génies de la langue dont la force est de réussir à dire beaucoup avec une incroyable économie de mots. Je me souviens notamment d'une phrase de Stéphane dans Les timbres de nos régions.
C'est la vie qui donne la vie.
Chateaubriand n'aurait pas dit mieux. C'est donc normal, Stéphane, que le mot de la fin vous revienne. L'expression du jour.
Vous moquez. Kiff kiff bourrico.
Ah oui.
Voilà une expression que l'on utilise moins fréquemment qu'auparavant. Je vous l'accorde. Mais non, j'appréciais au fond la bonhomie souriante.
Alors, si mes souvenirs lointains sont bons, kiff kiff bourrico, c'est pour dire c'est pareil. C'est vrai que certaines personnes disent encore kiff kiff, mais les plus puristes disent
kif-kif bourricot. C'est quand même plus rare maintenant. Hein.
Mais pourtant, cette expression vient, vous savez, de l'arabe, du Maghreb. Le kif n'a rien à voir ici avec le hashish marocain, mais cela signifie pareil. Enfin, ça veut dire le mot identique, si vous préférez. Ce sont les soldats français issus des armées d'Afrique du Nord à la moitié du 19e siècle, sous le Second Empire donc, qui vont rapporter la formule chez nous. La présence du mot bourricot dans cette expression s'explique parce qu'en arabe on dit aussi c'est pareil à l'âne. En France, on a également cette expression, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. De là avoir un rapprochement avec l'âne, dans c'est pareil à l'âne, il n'y a qu'un pas que la prudence m'empêche de franchir. En allemand, on dit « c'est veste comme pantalon ». Pourtant, rien ne ressemble moins à une veste qu'un pantalon. En italien, on ne dit pas « c'est pareil », mais « si ce n'est pas de la soupe, c'est du pain trempé ». Voilà, qui met aussi en appétit. En roumain, on dit « c'est pierre contre tête » ou « tête contre pierre ». Là, effectivement, on voit bien que c'est assez équivalent. Et si vous me permettez, je termine avec cette citation sportive. « Le tennis et le ping-pong, c'est pareil, sauf que les joueurs sont sur la table. » Et elle est pas de moi, elle est de Coluche.
Stéphane, j'ai une commande pour vous.
Oui.
Il y a une expression que j'ai jamais comprise, vraiment, je ne la comprends pas. C'est « beau comme un camion ». Parce oui. qu'un camion, c'est pas forcément très beau. Et je comprends si ça veut dire qu'on est beau ou si ça veut dire qu'on est moche. Je comprends pas.
Ce qui est drôle, c'est... Vous étiez en coma éthylique le jour où on l'a fait dans l'émission.
Très bien. Eh bien, cette émission est terminée. Une émission que j'ai suivie avec attention.
Bien de souvenir aussi qu'on l'avait fait.
C'est ma mémoire qui me joue les tours.
Ah oui.
Pour fêter la fin de cette émission, j'aimerais porter un toast. Et puisque c'est notre thème, le thème de l'émission, les génies de l'impro, j'aimerais vous improviser justement un petit discours. Stéphane.
On n'a plus le temps.
C'est sûr, je me sentais inspiré pourtant.
Oui, ben justement, certain. Mais avec un peu de chance, vous serez toujours inspiré demain.
Oui.
Vous aimez le champagne?
L'aimer, oui. Le consommer aussi souvent que vous et prendre des bains dedans, non, malheureusement, car je n'ai pas vos moyens.
Moi non plus. Eh bien, demain, pas de bain, mais des personnages qui aiment le champagne, au point de l'avoir inventé. La veuve Cliquot, Dom Pérignon, et oui, ils ont existé en vrai, les deux.
Et elle existe, elle aussi en vrai, mais encore aujourd'hui, à la différence de vos amis, en grande amatrice de champagne, Amélie Nothomb sera avec nous pour en parler. Alors vite, demain.
Oui, à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.